Cette fois, Béchou avait au moins un gros atout, puisqu'il voyait dans le jeu de Barnett qu'il connaissait la manière dont celui-ci allait attaquer et que la partie se jouait sur le terrain même dont Béchou prenait possession. Le lendemain, en effet, annoncé par le préfet de police lui-même, il sonnait chez le général Desroques. Un domestique à gros ventre, l'air d'un notaire de province dans sa redingote noire, ouvrit. Il introduisit Béchou qui, de 2 à 3 heures, posté derrière une fenêtre, épia la place du Trocadéro. La bohémienne n'y parut point. Le jour suivant non plus. Peut-être Barnett se défiait-il. Béchou s'obstina, d'accord avec le général Desroques. C'était un homme mince et grand, de figure énergique, qui gardait sous sa jaquette grise un air de vieil officier, un de ces hommes froids qui parlent peu à l'ordinaire, mais qui, sous l'empire de certaines passions, s'exaltent et discourent avec violence. Or, sa plus grande passion, c'était son fils. L'innocence de Jean Desroques ne faisait aucun doute pour lui. Dès son arrivée à Paris, il l'avait proclamé dans des interviews qui avaient ému l'opinion publique.
Jean est incapable d'une mauvaise action. Jean n'a qu'un défaut, c'est l'excès même de sa probité. Par scrupule, il peut se laisser aller jusqu'à l'oubli total de lui-même et de ses intérêts. Et cela va si loin que je refuse de le voir dans sa cellule ou de m'entretenir avec son avocat, et que je ne tiens aucun compte de ses objurgations. Je suis venu non pour me concerter avec lui, mais pour le défendre contre lui. Chacun son honneur. Si le sien est de se taire, le mien m'oblige à préserver notre nom de toute souillure. »
Et un jour où on le pressait de questions, il s'écria
« Vous voulez mon opinion. La voici, tout crûment. Jean n'a enlevé personne. On l'a suivi de plein gré. Il garde le silence pour ne pas accuser quelqu'un qui est mort. » Et avec qui il était, j'en suis convaincu, en relations intimes. Que l'on cherche, et l'on trouvera. »
Il cherchait, lui, avec acharnement, et il disait à Béchou
« Un peu partout, j'ai des amis puissants et dévoués qui se consacrent à cette enquête, enquête aussi restreinte que la vôtre, monsieur l'inspecteur, puisqu'il ne nous manque, comme à vous, qu'une preuve, la fameuse photographie. Toute l'affaire est là. Une conjuration s'est formée, et, vous ne l'ignorez pas, entre le financier Veraldi et les ennemis publics de mon fils, aidés par certains membres du gouvernement afin de trouver le document qui doit le perdre. On a tout bouleversé dans son appartement et fouillé dans toute la maison. Veraldi a offert une fortune à qui donnerait l'indication utile. Attendons. Le jour où le but sera atteint, nous aurons la preuve éclatante que mon fils est innocent. »
Pour Béchou, il importait peu que cette innocence fût établie ou non. Sa mission consistait à intercepter la photographie. Et Béchou pensait bien que, s'il y avait là une preuve en faveur du député Desroques, ses ennemis sauraient bien la faire disparaître. Aussi Béchou, esclave de son devoir, veillait. Il attendait la bohémienne qui ne venait pas. Il épiait Barnett, qui demeurait invisible. Et il notait les paroles du général Desroques, lequel, de son côté, racontait ses démarches, ses déceptions et ses espoirs. Un jour, le vieil officier, qui semblait pensif, apostropha Béchou. Il y avait du nouveau.
« Oh, monsieur l'inspecteur, mes amis et moi, nous sommes arrivés à cette conviction que le seul individu qui pourrait émettre un avis sur la disparition de la photographie, c'est le gardien de la paix qui a barré le passage à mon fils le jour de l'arrestation. Or, chose curieuse, le nom de ce gardien de la paix, personne n'a pu nous le dire. » On l'avait réquisitionné en passant, dans son commissariat, pour avoir un homme de renfort. Qu'est-il advenu de lui? On l'ignore, du moins parmi vos collègues. Mais on le sait en haut lieu, monsieur l'inspecteur, et nous avons acquis la certitude que cet agent a été questionné et qu'il est l'objet d'une surveillance quotidienne. Il paraîtrait qu'on a perquisitionné chez lui aussi, et dans sa famille, et que tous ses vêtements, tous ses meubles ont été examinés. Et puis-je vous dire le nom d'un des inspecteurs qui furent chargés de cette surveillance ? L'inspecteur Béchaud, ici présent.
Béchaud n'avoua ni ne démentit. Sur quoi le général s'écria :
Monsieur Béchaud, votre silence me montre la valeur de mes renseignements. Je suis certain qu'on voudra leur donner la suite qu'ils comportent et qu'on vous permettra de m'amener cet agent. Avertissez qui de droit. En cas de refus, j'aviserai.
Béchoux se chargea volontiers de la mission. Son plan ne se réalisait pas. Que devenait Barnett ? Quel rôle jouait-il dans l'affaire ? Barnett n'était pas homme à rester inactif, et tout à coup, on se trouverait en face de lui, et il serait trop tard. Il obtint plein pouvoir de ses chefs. Deux jours après, Sylvestre, le valet de chambre, introduisait Béchoux et le gardien de la paix, Rimbourg, brave homme à l'air placide dans son uniforme, revolver et bâton blanc sur les hanches. L'entrevue fut longue et n'apporta aucune indication utile. Rimbourg fut catégorique. Il n'avait rien vu. Cependant, il révéla un détail qui fit comprendre au général pourquoi l'on avait surveillé cet homme. Il devait son emploi à la protection du député Desroques, qu'il avait connu au régiment. Le général supplia, se mit en colère, menaça, parla au nom de son fils. Rimbourg ne s'émut pas. Il n'avait pas vu la photographie, et le député Desroques, dans son agitation, ne l'avait même pas reconnu. De guerre lasse, le général céda.
« Je vous remercie, et je voudrais vous croire, mais il y a dans le fait de vos relations avec mon fils une telle coïncidence que je conserve des doutes. »
Il sonna.
« Sylvestre, accompagnez Monsieur Rimbourg. »
Le domestique et le gardien de la paix sortirent. On entendit la porte du vestibule se refermer. À ce moment, Béchoux, rencontrant les yeux du général Desroques, crut voir que ses yeux avaient une expression goguenarde. Joie saugrenue que rien ne justifiait. Cependant, quelques secondes s'écoulèrent, et soudain, il se produisit un phénomène ahurissant que Béchoux contempla d'un œil stupide, tandis que décidément, le général souriait. Au seuil de la pièce, dont la porte était restée ouverte, avançait une forme étrange, des bras qui marchaient de chaque côté d'une tête, située en bas, un torse rond comme une boule, et deux jambes minces qui gigotaient vers le plafond. La forme se redressa brusquement et pivota comme une toupie sur la pointe d'un pied contre lequel l'autre s'appuyait. C'était le domestique Sylvestre, pris de folie brusque et qui tournoyait à la façon d'un derviche, son gros ventre secoué d'un rire qui s'exhalait par une bouche ouverte en large entonnoir. Mais était-ce bien Sylvestre ? Béchoux, devant cette extravagante vision, commençait à sentir son crâne qui perlait de sueur. Était-ce bien Sylvestre ? Le valet de chambre bedonnant, à tournure de notaire provincial ? Il s'arrêta net, planta sur Béchoux ses yeux écarquillés et ronds, défit comme un masque le rictus qui tordait son visage, déboutonna sa redingote et son gilet, dégrafa son ventre de caoutchouc, passa un veston que lui tendit le général Desroques, et, regardant de nouveau Béchoux, exprima ce jugement sévère. « Béchoux est une poire !» Béchoux ne s'indigna pas. Par son attitude pitoyable, il acquiesçait aux pires injures. Il conclut simplement « Barnett !» Barnett. » Le général Desroques riait de bon cœur. Barnett lui dit « Vous m'excuserez, mon général, mais quand je réussis, j'ai un trop-plein de joie qui se manifeste par de petits exercices acrobatiques ou chorégraphiques, parfaitement ridicules. »
« Alors vous avez réussi, monsieur Barnett. »
« Je le crois. Et grâce à mon vieil ami Béchou. Mais ne le faisons pas attendre. Commençons par le commencement. » Barnett s'assit. Le général et lui allumèrent des cigarettes. Et il prononça gaiement « Eh bien voilà, Béchou. C'est en Espagne que j'ai reçu d'un ami commun une dépêche, me demandant mon concours pour le général Desroques. J'étais en voyage amoureux. Tu te rappelles ? Avec une dame charmante. Mais l'amour de part et d'autre languissait un peu. Je saisis cette occasion de reprendre ma liberté et je revins en compagnie d'une adorable bohémienne rencontrée à Grenade. Tout de suite, l'affaire me plut, pour cette raison que tu t'en occupais. Et très vite, j'arrivai à cette conclusion que s'il existait, contre le député Desroques ou en sa faveur, une preuve quelconque, on devait la demander au gardien de la paix qui avait barré le passage. Or là, je te l'avoue, Béchou, malgré tous mes moyens d'action et toutes les ressources dont je dispose, je n'ai pu réussir à connaître le nom de ce brave homme. Bah, comment faire ? Les jours passaient, l'épreuve devenait dure pour le général et pour son fils. Un seul espoir. Toi. Béchou ne remuait pas. Anéanti. Il se sentait la victime de la plus détestable mystification. Aucun remède, aucune réaction possible. Le mal était fait. Toi qui savais, évidemment. Toi que l'on avait chargé, nous le savions, de cuisiner le gardien de la paix. Mais comment t'attirer ici ? Facile. Je me suis mis un jour sur ton chemin. Je me fis suivre par toi jusqu'à cette place du Trocadéro où stationnait ma jolie bohémienne. Quelques mots échangés à voix basse, quelques regards vers cette maison, et tu tombais dans le panneau. L'idée de me pincer ou de pincer ma complice t'animait d'une belle ardeur. Ton poste de bataille fut ici, près du général Desroques et près de son valet de chambre Sylvestre. C'est-à-dire près de moi qui, de la sorte, pouvait te voir chaque jour, t'écouter et influer sur toi par l'intermédiaire du général Desroques.
Tous mes compliments, mon général. Vous avez été avec Béchou d'une subtilité et d'une adresse qui ont prévenu ses soupçons et l'ont conduit au but, c'est-à-dire à mettre à notre disposition, durant quelques minutes, le gardien de la paix inconnu.
Mais oui, Béchou. Quelques minutes suffisaient. Quel était l'objectif ? Le tien, celui de la police, du parquet, de tout le monde. Retrouver la photographie, n'est-ce pas ? Or, je savais ton ingéniosité, et je ne doutais pas que tes investigations n'eussent été poussées aux limites de la perfection. Donc, inutile de chercher sur les routes mille fois piétinées. Il fallait imaginer autre chose d'anormal et d'extraordinaire, et l'imaginer a priori pour que le jour où le bonhomme viendrait ici, on le dépouillât à son insu et en un tournement. Les vêtements, les poches, les doublures, les semelles, les talons creux où l'on cache un document, autant de trucs usés. Il fallait ce que j'ai deviné, Béchou. L'impossible et le banal. Le fabuleux et le réalisable. La cachette inconcevable et cependant toute naturelle et répondant à la profession de cet homme plutôt qu'au métier de cet autre. Or, qu'est-ce qui caractérise un gardien de la paix dans l'exercice de sa profession ? Qu'est-ce qui le distingue d'un gendarme, d'un douanier, d'un chef de gare ou d'un vulgaire inspecteur de police ? Réfléchis, compare, Béchou. Je te donne 3 secondes, pas davantage, tellement c'est clair. Une,
deux, trois. Eh bien, tu as trouvé? Tu y es?